Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue à bord du cargo de Radio Caroline pour le dernier voyage de la saison. Mais vous retrouverez quelques-unes de nos meilleures échappées chaque samedi et dimanche de l'été, de 16h à 17h, donc horaires différents. Et pour ce périple-ci, j'ai emporté quelques livres parus récemment, imbibés de sons divers et de musiques variées. Ce compris, un éclairant livret titré « Say It Loud », les albums indispensables de la musique noire américaine, signé Sophie Rosemont et Olivier Cachin, et que publient les Inoccupables. De la soul au folk, du rhythm and blues au disco, du jazz au spoken word, tour d'horizon des différentes musiques ayant porté la voix de la lutte pour les droits civiques, autant que le mantra « Black is beautiful ». Un cahier, en quelque sorte, c'est un peu le format, qui sent bon l'encre, illustré de pochettes, de disques sur des aplats orange, rouge et noir, et au creux desquels on trouve notamment une notice dédiée à Anne Peebles, première interprète et co-autrice en 1973 de « I Can't Stand the Rain ». Nashville, Manchester, Austin, Chicago, Bourganeuf, toutes ces villes partagent une fierté militante et une foi inébranlable en leur propre importance et rayonnement. Elles sont la capitale mondiale du rock et de sa descendance, point à la ligne. Voilà ce qu'écrit en préambule Jean-Daniel Beauvallet, plume historique des Un Rock, dans son recueil illustré par Frédéric Pelletier, Rock City Guide, 29 villes qui ont changé le cours de la musique. Et parmi ces 29 cités classées par ordre alphabétique, on trouve juste après Bristol, les chouchous de Bruxelles, Big City, c'est le titre. Beauvallet y évoque à la charnière des années 70 et 80 le plan K et les labels Factory Benelux et Disques du Crépuscule, sur lesquels hasard des parutions en viendra dans quelques minutes grâce à un autre livre. En ville, écrit Beauvallet, un fils de bonne famille collectionne religieusement toutes les sorties du label Factory. Trop jeune, il a manqué les deux concerts de Joy Division au plan K. Il le vit encore aujourd'hui comme un drame. À cette époque, Kenneth Gates est encore un kid qui hante les magasins de disques, obsédé par la New Wave. On lui a même trouvé un surnom, Factory Boy. Il deviendra Kenny Gates, cofondateur du label et distributeur Pias, Played Against Sam, activiste infatigable depuis 40 ans. Plus près encore du centre-ville que le plan K, rue de l'Hôpital, Casablanca Moon est un autre point cardinal de la New Wave bruxelloise qu'il fréquente. Le magasin de disques sert lui aussi d'ambassade bruxelloise au nouveau son, le plus souvent anglais. Il s'improvise également distributeur. Une fois par semaine, Michel Lambeau, basketteur retraité et co-créateur du magasin, part à Londres en Renault 5 pour puiser à la source les nouveautés qui font la réputation de son antre. Il tisse un précieux réseau avec les labels anglais, tente d'en comprendre les rites, d'en décrypter l'économie hasardeuse. Pour gagner leur confiance, il distribue dans toute la Belgique les nouveautés qu'il déniche. Casablanca Moon est pareillement intimidant que le plan K, écrit encore Beauvallet, hostile même pour les clients dont la tête ne revienne pas aux vendeurs sadiques. C'est un magasin de disques en somme, mais aussi un lieu social, un point de rencontre où seuls les labels indépendants ont le privilège d'être conviés. Echo and the Bunnymen, signé en sous-main par une major compagnie, y sont par exemple interdits de séjour. C'est un vrai lieu alternatif décoré des affiches d'extrême gauche de Bader-Meinhof. Et le staff est à la hauteur. Kenny Gates se souvient de sa première visite avec un effroi intact. Le gars derrière le comptoir me regarde d'un air méfiant. Il est maquillé, porte des boucles d'oreilles, a visiblement pris des amphétamines ou du speed. La musique joue très fort, à la limite de l'assourdissant, de la musique industrielle. Je me rends compte alors que je ne connais aucun des albums, aucun des artistes de ce magasin. Et Beauvallet écrit encore « C'est là, dans l'arrière-salle, que Michel Lambeau gère depuis 1979 son label Sandwich Records et son stock de vinyles assemblé à la main. La première sortie, en 1981, est réservée à Polyphonic Size, groupe local produit par le bassiste des Stranglers, Jean-Jacques Burnel. Un disque, se dit en passant, qui sera financé avec l'aide du jeune Kenny Gates, avec qui Michel Lambeau ne tardera pas à fonder. Pias, Played Against Sam, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai un de ces quatre. Et sur ce disque de Polyphonic Size,
je t'ai toujours aimé.
Très vite, écrit Beauvallet à la lettre B comme Bruxelles de son City Guide du Rock, cette agitation de la scène bruxelloise se traduit par la multiplication des groupes et des labels nécessaires à leur économie parallèle. L'appel d'air vire à la tornade, la chanteuse américaine Anna Domino n'en perd pas une miette et confiera bien plus tard « Bruxelles était extraordinaire à cette époque, des groupes du monde entier s'y installaient ». La suite de cette passionnante déambulation au travers de 29 villes qui ont marqué la musique populaire, de Athènes à Seattle, c'est dans ce Rock City Guide paru chez GM Éditions. Manchester fait évidemment partie des cités évoquées par Jean-Daniel Beauvallet, mais on s'y promène aussi à travers les lignes d'un autre livre, titré The Dirty Column, paru aux éditions Le Mot et le Reste, et signé Pierre Sauvanet. Un ouvrage dédié, on l'aura compris, à ce groupe The Dirty Column. Livre qui commence par cette anecdote. L'histoire est bien connue des fans. Fin 1979, Ian Curtis, le chanteur de Joy Division qui a besoin d'un peu d'argent, passe des heures à coller manuellement un millier de pochettes du premier disque de The Dirty Column, les deux groupes venant de signer chez un nouveau label anglais, Factory. Précision, cette fameuse pochette est en papier de verre, faite, dit-on, pour détruire les disques voisins dans les bacs des disquaires. Inspirée d'une idée du situationniste Guy Debord, qui avait déjà couvert de la sorte les exemplaires de ses mémoires 20 ans auparavant. L'album en question, The Return of the Dirty Column, est devenu mythique pour ces deux raisons. Au moins, sa musique et sa pochette et sa musique. Cité dans la bio qui nous occupe, Vinnie Reilly, âme de Dirty Column, raconte « C'est Tony Wilson, le boss de Factory Records, qui a trouvé notre nom. Pour nous, le punk était mort dès 1978, on est revenu au concept de base, celui de Malcolm McLaren quand il a créé les Sex Pistols, en s'inspirant des situationnistes. Nous avions lu dans un livre de Guy Debord que, pendant la guerre civile espagnole, la colonne armée de l'anarchiste Buenaventura Durruti passait à travers les villes en les détruisant, pour reconstruire un monde nouveau. Ça correspondait à notre idée et ça nous semblait anarchiste de sortir un disque instrumental de musique douce et individualiste dans un contexte où tout le monde écrivait des chansons sur le chômage. À propos du mouvement punk, il faut savoir qu'à ses tout débuts, en 1977, Vinnie Reilly en fit partie pendant quelques mois au sein d'un groupe nommé Headbangers and the Nosebleeds, auteur d'un seul single, Ain't Been to No Music School. Comme il l'explique dans l'extrait d'interview qui va suivre, Reilly a rapidement quitté ce groupe dès l'instant, en fait, où il a senti que le punk devenait mainstream, artificiel, juste une question de pause.
In my earlier career, I was in like an imitation punk band, which we called ourselves Ed Banger and the Nosebleeds, which I dreamed up while serving petrol one night. And it was kind of meant to be funny, but they, anyway, so, and I was in that band for 6-7 months, and we did a single, and then I got very disillusioned with punk, and as it became more and more mainstream and fake, and I left the Nosebleeds.
Et quelques mois plus tard, Vinnie Reilly créera donc The Dirty Column, mais de groupe, il ne s'agira jamais vraiment. En 1979, la version originale à 7 musiciens n'existe déjà plus, note Pierre Sauvanet dans sa bio. Il semble qu'une violente dispute ait éclaté entre eux à propos du producteur qu'il fallait engager pour leur premier disque. Vinnie Reilly, absent de cette réunion, le racontera plus tard. « J'ai donc écrit une lettre au groupe et une à Tony Wilson, le boss de Factory, » pour annoncer mon départ du groupe, puis je suis allé m'asseoir chez moi pour me concentrer sur ma dépression. Tony est revenu 3 ou 4 fois vers moi pour me dire « Mais non, Dirty Column, c'est toi !» À ce moment-là, je faisais des petits morceaux de guitare, comme je l'avais toujours fait, et Tony m'a dit « Mais c'est très bien, on va les enregistrer !»
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
En 1980, avec la sortie de The Return of the Dirty Column, le pseudo-groupe est déjà une affaire solitaire, écrit Pierre Sauvanet dans son livre paru aux éditions Le Mot et le Reste. Et en même temps, de nombreuses rencontres seront déterminantes pour la suite de l'aventure. Vinnie Reilly fait notamment la connaissance de Michel Duval et Annie Connoré, les fondateurs à Bruxelles de Factory Benelux et des Disques du Crépuscule. Un titre leur sera d'ailleurs dédié « For Belgian Friends ». J'en ai parlé lors d'une précédente traversée, le 26 avril 1980, une première Factory Night se déroulera au plan K de Bruxelles, situé rue de Manchester, histoire de fêter l'alliance avec le label Factory Records de Manchester. The Dirty Column ne s'y produira pas, mais en revanche, son fondateur, Vinnie Reilly, traversera la mer du Nord pour y jouer 2 mois plus tard dans le cadre d'un événement rendant hommage à Jean Cocteau. Une performance ainsi décrite par l'hebdo anglais New Musical Express. Vinnie Reilly ne porte pas de costume neuf et ne danse pas, mais il s'en sort très bien. Interprète frêle et modeste, il est assis avec sa guitare et ses cassettes. Il construit une musique si délicate et si belle que Bruxelles l'apprécie particulièrement. Et au fil du concert, on sent son assurance grandir. Il s'agira, il faut le savoir, du premier voyage de Reilly, 26 ans tout de même, hors du Royaume-Uni. Une expérience dont il se souviendra plus tard en ces mots. Le matin à l'hôtel, j'ai découvert à mon grand désespoir que le petit déjeuner se résumait à un croissant et du café. Je me demandais, mais où est le petit déjeuner? J'étais tellement ignorant, je ne connaissais rien du monde. J'ai vraiment aimé jouer sur le continent, même si c'était physiquement difficile. C'était très civilisé, les gens étaient plus riches qu'en Angleterre, moins agressifs. Le plan K était étonnant, c'était pris très au sérieux. Les gens écoutaient attentivement chaque note et j'avais l'impression de marcher sur une corde raide car chaque note devait être juste. Vinnie Reilly contribuera ensuite à 2 titres de la première compilation des disques du Crépuscule, From Brussels with Love, dont Peace for an Ideal, une démo enregistrée d'ailleurs dans la capitale belge. Son lien avec Bruxelles et avec les Belges, avec certains Belges, inspirera aussi à Reilly un instrumental titré Lips That Would Kiss, sorti en septembre 1980, un hommage à l'histoire d'amour entre Annick Honoré, cofondatrice de Factory Benelux et des disques du Crépuscule, et Ian Curtis, leader de Joy Division, qui s'est suicidé 3 mois plus tôt. Terry Reilly, figure libre, c'est le titre d'un livre qui vient tout juste de sortir, signé Jean-Louis Talon et paru aux éditions Le Mot et le Reste. Mais avant d'y venir, à ce livre, qui est donc Terry Reilly? Vous entends-je penser? Rien de moins qu'un musicien vénéré par Pete Townshend et Who, autant que par le groupe Soft Machine, mais également par l'ex-Velvet Underground John Cale, on y reviendra. Terry Reilly, un nom par ailleurs évoqué dans un récent épisode de Radio Caroline dans lequel je pointais que sa musique avait également inspiré Michael Field pour son album Tubular Bells. Michael Field en 1971, donc, quant au disque de Terry Reilly qui en fut l'une des sources, pour rappel, c'était A Rainbow in Curved Air, enregistré en 1969. Cela dit, l'œuvre culte de Terry Reilly, considérée par beaucoup comme l'acte de naissance de la musique minimaliste, de la musique répétitive, elle fut créée en 1964 au Tape Music Center de San Francisco et se nomme In C. In C est à Terry Reilly ce que le boléro est à Maurice Ravel, estiment certains, c'est en tout cas ce que j'ai lu. Sauf que, contrairement à Ravel, Reilly n'a pas donné d'indication sur la manière de jouer sa composition, de répéter pendant 45 à 90 minutes les 53 cellules de quelques notes écrites sur sa partition d'une seule page. Ce qui veut dire que d'emblée, pour lui, tout instrument acoustique, électrique, synthétique était le bienvenu. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à Terry Reilly de se faire connaître hors des cercles d'initiés pour toucher notamment le public du rock, rock progressif à tout le moins. Écoutez cet autre extrait de In C, mais cette fois interprété par le groupe belge Blind Man lors d'un concert à Bruges en 2001, 57 ans donc, après la création de cette composition, ici avec saxophone, synth drums et guitare électrique. Je n'ai jamais été intéressé par le minimalisme, mais j'étais très intéressé par le psychédélisme et le mouvement psychédélique des années 60 comme une ouverture vers la conscience, dira Terry Reilly bien plus tard. Pour ma génération, c'était un premier regard vers l'Orient, c'est-à-dire le peyote, la mescaline et les drogues psychédéliques qui ouvraient l'attention des gens vers une conscience supérieure. Je pense donc que ce que je découvrais à l'époque avec la musique était un autre monde. La musique avait aussi le pouvoir de nous transporter soudainement d'une réalité à une autre. Elle nous transportait au point d'avoir presque des visions pendant que nous jouions. C'est ce à quoi je pensais avant d'écrire In Si. Je crois que la musique, le chamanisme et la magie sont tous liés et c'est ainsi que l'on crée la plus belle utilisation de la musique. Au registre des références pop et rock associées à Terry Riley, je le disais, l'ex-Velvet Underground John Cale, avec qui Riley enregistrera en 1971 Church of Anthrax. Quel dommage que le monde entier ait ignoré l'un des meilleurs albums sortis cette année, écrira le magazine américain Rolling Stone, un disque en grande partie composé d'improvisations, où la musique minimaliste rencontre le free jazz, non sans passer par une vraie chanson lumineuse avec un John Cale émouvant au chant. Radio
Caroline. New York Herald Tribune.
Je t'en prends un.
C'est gentil. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que vous détestez Perry.
J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis.
Alors vous êtes en danger?
Oui, je suis en danger. Tu veux pas venir à Rome avec moi, Patricia?
Et faire quoi là-bas?
On verra.
Non, j'ai beaucoup de choses à faire à Perry, Michel. New York Herald Tribune!
Et oui, au début des années 60, de jeunes femmes et de jeunes hommes revêtus d'un t-shirt blanc surmonté de la mention New York Herald Tribune arpentaient certaines avenues de Paris pour vendre ce journal aux expats ricains. Alors, retrouvons-nous dans cette ambiance, mais avec Terry Riley qui, avec sa femme et leur petite fille, se sont provisoirement installés à Paris. Paris, où il reprendra le job de vendeur de journaux qu'occupait jusque-là un jeune Australien avec qui il a sympathisé, comme le rappelle Jean-Louis Talon dans Terry Riley, figure libre. Terry Riley devient donc vendeur du New York Herald Tribune à la suite de David Allen, futur guitariste et bassiste de Soft Machine, lequel, un soir, lassé d'un tel travail, avait fini par péter littéralement les plombs et jeter tous les exemplaires du journal dans la rue. Riley est censé couvrir deux quartiers, la place de l'Opéra et Pigalle. Il se rappellera d'ailleurs avoir écoulé tous ses exemplaires le soir de la mort de Marilyn Monroe, le 4 août 1962. Par la suite, il trouve un emploi plus adapté de pianiste dans un bar situé 14 rue Pigalle, qui existe depuis les années 30. Il y joue toutes les nuits de 22h à 4h du matin pour un salaire de 20 francs. Les clients en état d'ébriété ne sont pas regardants. À vrai dire, il ne semble même pas leur marquer. Il peut alors se laisser aller à improviser, à jouer ce qu'il veut. Peut-être a-t-il à l'esprit, comme on le lui a dit, que Cole Porter a joué sur le même piano et dans ce même bar lorsqu'il vivait à Paris. Il apprend également qu'en bas de la rue, à l'église de la Sainte Trinité, Olivier Messiaen joue de l'orgue tous les dimanches. Par la suite, le compositeur s'inscrit dans une agence qui l'envoie jouer avec un groupe de jazz pour les bases de l'OTAN et dans les clubs d'officiers de tout le pays. Il fait à la fois office de pianiste et de chauffeur de bus. Son travail consiste à conduire, parfois pendant de nombreuses heures, les musiciens, dont il fait aussi partie, sur les bases de l'OTAN, à jouer du piano pour les spectacles, puis à faire le long chemin du retour vers Paris. Il lui arrive même de partir en tournée avec un cirque dont il accompagne en musique les cracheurs de feu et les acrobates. Et c'est à Paris, également, en 1963, que Terry Riley cisellera pour le théâtre une première œuvre, répétition et collage de petits motifs musicaux qui se déphasent, prémisse, en somme, de son classique In Si qu'il composera dès son retour à San Francisco. Cette histoire et bien d'autres chapitres encore, on les retrouve dans le livre Terry Riley, figure libre, édité par Le Mot et le Reste. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir, à le partager, à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.